Bonjour chers auditeurs, quand on parle de la situation de l'école, force est de constater que personne ne fait preuve d'un enthousiasme démesuré quant aux résultats et à la qualité de l'enseignement. Et pourtant, quand il s'agit de leurs enfants, les parents veulent le meilleur et on les comprend. Baisse constante du niveau des élèves, crise d'autorité, perte de confiance des parents, inégalité de traitement ou défis posés par l'intelligence artificielle, les sujets de préoccupation ne manquent pas et vont continuer à ne pas manquer pendant un certain nombre d'années. Et pourtant, les Français, et en particulier les parents dans leur grande majorité, ne sont pas indifférents à ce qui se passe à l'école. Ils ont bien conscience qu'il y a un problème. Et ce n'est rien de le dire. Alors aujourd'hui, pour en parler, je reçois Marie-Neige Guillotel, présidente de la FPEEI, Fédération des parents d'élèves des écoles indépendantes. Bonjour Marie-Neige, Marie-Déneige.
Bonjour.
Je reçois aussi Augustin Yvan, responsable du développement de la Fondation pour l'école. Bonjour Augustin.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Augustin Yvan, vous représentez la Fondation pour l'école. La Fondation pour l'école, je pense que nos auditeurs la connaissent. C'est une fondation qui aide, soutient des écoles indépendantes ou qu'on peut appeler aussi écoles hors contrat. Et la Fondation pour l'école, et c'est pour ça que je vous invite aujourd'hui, vient de commander un sondage sur les Français et l'école. Vous nous en dites un mot ?
Avec plaisir, un sondage donc commandité à Jérôme Fourquet, le directeur opinion de l'IFOP, et qui pose la question suivante, que veulent les Français pour l'école ?
Ah ça c'est une vraie question, et je pense que les réponses vont être intéressantes.
Ah, il y a mille choses à dire, et la perspective de l'élection présidentielle de 2027 évidemment est en ligne d'horizon. Ce sondage pose une dizaine de questions aux Français, à un panel de Français sur plein de thématiques, et il donnera lieu à une restitution le 4 mai. Au Palais du Luxembourg, un colloque donc en présence de Monsieur Fourquet qui sera animé par Azélise Lecor, journaliste et essayiste, et qui sera suivi d'une table ronde. L'idée étant la suivante, il y a des solutions qui existent, qui sont plébiscitées par les Français, donc nous aimerions les mettre en avant, et aussi promouvoir des acteurs de la réussite éducative qui puissent exprimer ce qui fonctionne pour avancer.
Alors ces acteurs de la réussite éducative, lesquels sont-ils ?
Alors pour l'instant,
c'est secret.
Alors
peut-être.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils seront représentatifs de tous les niveaux, c'est-à-dire vous aurez à la fois un professeur, un directeur, une présidente d'association de gestion, une personne, des experts sur le sujet. Donc on essaiera vraiment de faire en sorte que ce soit pas juste du blabla, comme c'est malheureusement parfois le cas dans ces colloques, mais aussi que ça ait une visée duplicative, si vous me permettez ce terme, que ça puisse vraiment donner lieu à des émulations et qu'on puisse s'en inspirer.
Rêvons un peu, est-ce que vous pensez réellement que l'éducation nationale pourrait s'emparer de bons modèles d'écoles sous contrat ou hors contrat pour les dupliquer dans des écoles publiques ?
Eh bien, c'est toute l'action de la Fondation pour l'école, mais pas que. Et puis, surtout, il y a plusieurs nuances dans l'application des mesures que nous proposons. Certaines sont faciles à mettre en place. Il y en a qui ont déjà même été reprises. Je pense, un exemple tout bête, mais qui parlera à la plupart, la question du port de l'uniforme. Voilà quelque chose qui vient éminemment du privé, mais qui, Gabriel Attal-Aidan à l'époque, avait été repris, avait donné lieu à une expérimentation. Donc en réalité, ce que nous faisons, bien sûr, fait des émules. Et pourquoi ? Ben, tout simplement parce que le niveau scolaire, enfin, les tests PISA et les tests TIMSS le montrent, c'est tellement la dégringolade face à... Il y a une baisse démographique. Je vous donne juste un exemple. À la rentrée scolaire, il y a 5000 classes qui ont fermé dans le public du fait de la baisse démographique. En face de ça, dans leur contrat, vous avez 400 classes qui ont ouvert, alors que ce sont des familles qui payent deux fois, alors qu'elles ont toutes les tracasseries qu'on connaît sur le sujet. Donc, en fait, c'est sans appel. Le constat est sans appel. Donc, oui, il y a une vraie influence qui se fait, et puis on va tout faire pour l'accentuer.
Donc, ce sondage dont les résultats ne sont pas encore connus, mais vous allez les dévoiler prochainement, et je ne suis pas dans le secret. Mais pour connaître les résultats, donc vous organisez un colloque.
Exactement.
Donc ce colloque aura lieu au Palais du Luxembourg.
Tout à fait, Le 4 mai, c'est un lundi au retour du pont et il aura lieu donc de 16h à 18h.
Ouvert à tous ?
Il est ouvert à tous, l'entrée est gratuite, en revanche l'inscription est obligatoire pour des raisons de sécurité avec une pièce d'identité. Donc si cela intéresse nos auditeurs, eh bien c'est tout simple, vous tapez colloque et fondation pour l'école dans Google et vous arriverez directement sur la page de notre site et derrière vous êtes les bienvenus.
Alors on en a parlé, vous m'avez dit ça se remplit très très vite.
Oui,
donc
exactement.
Il ne faut pas hésiter à le faire et ne pas attendre le dernier moment, ce que j'ai bien risqué de faire. Marie Desneiges Guillotel, vous êtes souvent en contact avec des parents puisque vous les représentez. Quand vous parlez avec les parents aujourd'hui, quelle est la première inquiétude qui revient sur l'école ?
Alors déjà, pour vous répondre, je préférerais déjà expliquer ce que c'est que la Fédération des parents d'élèves, pourquoi nous sommes là pour défendre les parents. Les parents d'élèves des écoles hors contrat subissent des injustices par rapport aux écoles sous contrat et publiques. Pour, par exemple, le domaine des inspections, qui peuvent tout à fait bien se passer, comme très mal se passer, l'accord pour le pass culture.
C'est-à-dire qu'en fait, quand les enfants sont dans des écoles hors contrat ou écoles indépendantes, ils n'ont pas le droit au pass culture.
Alors, ils ont droit au pass culture, mais pour certaines spécialités, comme un parent d'élève m'en a parlé récemment, m'a contacté à ce sujet, son enfant est dans un lycée hors contrat. Et il compte passer la spécialité histoire de l'art. Et pour toute cette spécialité, vous avez un nombre d'événements
à valider.
Oui. Voilà. Donc vous avez des expositions à faire, vous avez un ballet pour lequel vous assistez, vous avez pas mal d'activités obligatoires, qui revient à un coût à peu près de 300 euros. Et les élèves dans le sous-contrat et public ont droit à ce pass culture de 300 euros, alors que les autres gardent toujours celui de 90 euros. Donc je précise bien que les parents qui ont des enfants dans le hors-contrat peuvent demander le pass culture, ils le font eux-mêmes, ça se passe bien, mais en revanche, pour des spécialités, ils n'ont pas le montant alloué aux autres. Donc alors qu'il n'y a aucune raison, ils passent les mêmes examens, les inspections sont faites dans nos écoles. Voilà, plein de petits détails, mais qui sont un peu usants pour les parents, j'avoue.
Et donc, en fait, votre objectif, c'est de faire en sorte que justice soit faite.
C'est ça, justice soit faite sur tous les plans pour lesquels nous nous battons, donc les inspections, l'accès au concours général. Récemment, vous avez entendu Monsieur Geffray qui ouvre le concours général pour les collégiens. Il existe déjà. Concours d'entrée, pardon, pour les lycéens, et il l'ouvre pour les collégiens, et il s'avère que nous, pour le moment, nous n'avons ni accès au concours général pour les lycéens, et donc toujours, bien sûr, pas pour les collégiens, donc on va se battre pour ça.
Vous risqueriez peut-être de rafler un certain nombre de prix.
Peut-être bien.
Non, c'est, comment dirais-je, je plaisante, mais je crois que c'est peut-être significatif de quelque chose qui se passe au niveau de l'éducation nationale et au niveau du gouvernement, le fait de se dire qu'à partir du moment où on a choisi de se mettre en dehors du système public, finalement, il n'y a aucune raison qu'on soit soutenu et on assume ses choix, c'est un peu ça.
Oui, c'est ça, en fait, c'est ce qu'on nous rétorque. Hein. Vous avez choisi d'aller dans leur contrat, donc pourquoi vous vous plaignez ? Sauf que nous payons deux fois.
Et donc, les parents, quand vous parlez avec les parents, de quoi vous parlent-ils en priorité ? Donc, ils vous parlent effectivement de ces injustices, de ce décalage de traitement entre les élèves des écoles indépendantes et ceux du public. Mais j'imagine que s'ils mettent leurs enfants dans des écoles indépendantes, c'est peut-être parce qu'ils ont des attentes particulières. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les parents ont plus d'attentes envers l'école qu'avant ?
Oui. Je pense qu'en fait, vous avez plusieurs points que j'ai notés avec les discussions que j'ai pu avoir avec des parents. Vous avez la diversité des besoins qui sont dans le sens où vous avez une offre de plus en plus riche dans les écoles indépendantes. Résultat, les parents peuvent réfléchir à l'école dans laquelle ils vont mettre leur enfant par rapport aux qualités de leur enfant,
ses aspirations, de leur projet vis-à-vis de leurs enfants.
Voilà, vous avez ça d'une part. Vous avez également les difficultés qui sont liées à l'école par la baisse de niveau. Alors ça, c'est quand même un sujet important pour les parents. On a pu avoir ça dans les études, mais vous avez 40% des enfants, si je ne me trompe pas, qui rentrent en sixième, qui ne parlent pas bien français et ne l'écrivent pas bien non plus. Et les dictées sont épouvantables. Donc, ça veut dire qu'on peut remettre en cause l'enseignement dans le primaire. Et donc, les parents souhaitent avoir justement un enseignement le plus concret possible, le plus pratique possible, en reprenant les anciennes méthodes. Vous avez les pédagogies classiques, vous avez d'autres pédagogies également pour des familles qui sont plus proches de la nature. Vous avez une autre diversité comme les écoles Montessori, pour lesquelles pas mal de parents, vers lesquelles pas mal de parents se dirigent, comme le fait aussi que vous avez des enfants qui sont porteurs de handicap. Et Montessori peut répondre aussi à l'aide aux enfants qui sont porteurs de handicap. Vous avez des effectifs dans les classes peu nombreux, ou bon, à quelques exceptions près, bien sûr, mais pour des enfants qui ont...
Généralement, oui, c'est quand même voilà. des plus petits
oui,
effectifs.
Oui, entre 15 et 20, et en fait, c'est l'idéal, surtout en primaire, où les enfants travaillent mieux et sont bien pris en compte par les professeurs.
Augustin Yvan, est-ce qu'à la Fondation pour l'école, vous constatez une demande particulière, une attention particulière aux méthodes pédagogiques?
Absolument.
De la part des parents?
Alors absolument, il se trouve qu'à la Fondation, nous sommes en contact avec tous les autres acteurs, c'est-à-dire les directeurs, les présidents d'associations, les professeurs. C'est pourquoi le fait de pouvoir discuter avec la Fédération est très intéressant, parce que c'est une pièce du puzzle supplémentaire. Il y a un élément important aussi à savoir, c'est que ce sont souvent les parents des enfants qui s'impliquent dans les écoles hors contrat et qui les montent la plupart du temps. Mais oui, le principal enjeu, il est d'abord pédagogique. Marie Desneiges le rappelait, nous sommes en France les avant-derniers de l'Union européenne au classement PISA, c'est pas pour rien.
Oui, je sais pas s'il faut le rappeler parce que ça, c'est quand même désespérant.
Mais bon. Bah, c'est vrai que c'est désespérant, mais une fois posé le constat, c'est aussi à moitié le résoudre.
Oui, bien sûr, oui.
Donc une fois qu'on arrête de se voiler la face en déclarant que l'euro est nu, eh bien, on peut apporter des solutions. Et justement, les parents, pour ça, ont une vraie attente pédagogique. C'est pas juste sociologique, c'est pas je veux que les enfants soient entre eux, c'est pas je veux qu'ils fréquentent la même école que le voisin. Non, il y a vraiment un souci pédagogique qui est déjà académiquement, je veux que mon enfant ait les fondamentaux. Éducativement, je veux qu'il soit en contact avec la réalité, qu'il développe son esprit critique, quelle que soit la pédagogie choisie. Hein, toutes celles qui ont été citées ont en commun un vrai retour au réel. Et puis d'un point de vue relationnel, je veux que ça se fasse dans un cadre serein. Je veux qu'il apprenne à dire bonjour, merci, s'il vous plaît. Je veux qu'il sache communiquer ses frustrations sans faire usage de violence. Donc, les parents, derrière ça, eux-mêmes, ils ont vu, pour certains, ce qu'ils avaient reçu dans les écoles hors contrat. Et pour les autres, ils voient ce qu'ils n'ont pas reçu et surtout ce que leurs enfants n'ont pas.
En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que la demande pour ces écoles, cette demande qui se développe, est-ce qu'elle vient plutôt de convictions pédagogiques, de méthodes à appliquer, ou alors d'une insatisfaction vis-à-vis du système actuel? Qu'est-ce que vous en diriez, Marie Desneiges Guillotel?
Je pense qu'il y a les deux, en fait. Des enfants qui se trouvent dans le public ou sous contrat peuvent être mal dans leur peau dans ces écoles. Les parents réfléchissent à ça et essayent de voir ailleurs. Et là, ils voient une diversité de pédagogie différente vers lesquelles ils se penchent et à ce moment-là, font leur choix. Vous avez des familles, alors pour leur contrat, vous avez des familles qui sont tombées dedans comme Obélix quand ils étaient petits, comme moi par exemple. Et puis, vous avez d'autres familles qui découvrent par hasard, alors qu'eux-mêmes n'ont pas eu toute cette chance. Ils ont pu même être dans les banlieues. Ils ont réussi à la force du poignet à arriver à avoir un travail en tant qu'ingénieur. J'ai un exemple en tête. Et puis, leurs enfants, ils se disent « Non, mais en fait, c'est pas du tout ce que je souhaite pour mes enfants. Je ne peux pas les mettre dans le public. Et je veux le meilleur. » En fait, ils veulent le meilleur pour leurs enfants.
Mais d'ailleurs, je me permets de rebondir là-dessus.
Oui.
C'est très intéressant parce que le hors-contrat se développe dans tout type de zone. J'ai pendant 10 ans travaillé en banlieue parisienne du côté de Mantes-la-Jolie comme professeur et directeur d'école. Les parents avaient exactement les mêmes aspirations. Ils voulaient le meilleur pour leurs enfants et ils refusaient le collège public d'à côté en nous demandant à tout craindre, nous n'avions aucun primaire, d'ouvrir un collège. Donc en fait, c'est une aspiration qui est collective. Aujourd'hui, malheureusement, pour des raisons de coût, le hors-contrat est réservé trop souvent à une certaine élite, on va dire, si l'on peut parler ainsi, en tout cas d'un point de vue financier, mais en réalité, tout le monde aimerait y aspirer. Je terminerai en disant une chose, c'est que à partir du moment où il y a 2105 établissements sur le territoire, alors que ça n'existait pas il y a 30 ans,
les écoles hors contrat,
il y a 125 000 élèves, Il y a une demande croissante des listes d'attente. Enfin, je veux dire, c'est un phénomène de société. On ne peut plus faire comme si c'était juste une réaction contre, comme le terme de hors contrat, d'ailleurs, assez mal choisi, je dirais, parce que dans hors contrat, vous entendez hors contrôle, alors que, évidemment, ce sont les écoles les plus contrôlées de France. Donc, c'est plus juste un phénomène de réaction. Maintenant, il y a une véritable adhésion, il y a un projet qui se développe et nous accompagnons ça de tous nos voeux à la Fondation.
C'est tout de même un signal d'alarme pour l'école publique, parce que ce n'est pas juste une diversification normale de l'offre éducative. Alors, c'est vrai qu'on est dans une société où on a de plus en plus, on cherche à ce que tout colle le mieux possible à l'individu. Donc, cette diversification, elle pourrait être considérée comme quelque chose d'assez naturel, parce que tous les enfants ne rentrent pas dans le même moule, mais c'est quand même ça devrait être un signal d'alarme pour l'école publique en disant il y a quelque chose qui ne va pas.
Je pense que c'est toujours pareil. Il y a plusieurs façons de le prendre. On peut le prendre comme une saine respiration démocratique. C'est normal qu'il y ait des initiatives de la société civile et c'est même plutôt sain. On peut le prendre, et c'est malheureusement souvent la tendance, comme une agression. Et j'ai une anecdote à ce sujet qui est intéressante. C'est lorsque je travaillais comme directeur, il se trouve que nous partagions les locaux, c'est cocasse, avec l'inspection académique du département. Nous étions dans les mêmes locaux.
C'est intéressant.
Donc je voyais leur réaction. Certains étaient charmants, il ne faut pas faire de généralité.
Non, mais il n'y a aucune raison non plus qu'ils soient désagréables.
Mais malheureusement, quand même, il y avait un certain parti pris de conviction, qu'on peut même dire idéologique, je pense, qui fait qu'en fait, il y avait une espèce de... Typiquement, il y avait un discours très fréquent qui était de dire « Regardez, là-bas, ils ouvrent une école, là-bas étant mon école, ils ouvrent une classe, alors que nous, on enferme, dit l'école publique d'à côté. » Et c'est comme si, d'un coup, on avait pris l'argent de l'un pour le donner à l'autre. Donc, il y a cette espèce de réflexe défensif.
Ils se sentaient privés.
Ils se sentaient privés, alors que c'est complètement faux. Évidemment, l'argent, on allait le chercher, vous pensez bien, et on n'allait pas le prendre dans leur poche.
Sachant qu'en fait, le principe de l'école indépendante, c'est que elle ne coûte absolument rien à l'État.
On est d'accord.
Non seulement elle ne coûte rien, mais en plus
nous,
les parents payent double.
Ouais, ils payent.
Donc c'est là où on peut souligner que c'est une injustice vraiment. Qu'on ait choisi leur contrat, c'est une chose, mais qu'on doive payer double alors qu'on n'a pas nos enfants dans le public ou sous contrat, c'est un peu exagéré.
C'est un peu comme la redevance télé quand vous l'avez pas, voyez.
Oui, mais on pourrait le dire pour beaucoup de services publics qu'on n'utilise pas.
C'est vrai également, oui.
Sauf que à la nuance près que en l'occurrence les services publics doivent se positionner par rapport à une offre privée, il faut qu'on puisse comparer pour pouvoir choisir en connaissance de cause. Ok, c'est vrai qu'on va pas utiliser tous les services publics de la terre. Maintenant, il n'empêche qu'avec vos impôts, vous payez un service, vous avez le droit d'attendre qu'il soit de qualité.
Ça, c'est vrai que pendant quand même des générations, les personnes ne se sont pas posé la question de mettre leurs enfants autre part que soit dans l'école publique, soit dans une école sous contrat. Ça, c'est quand même un signe. Il y a quand même une évolution incroyable en 10 ou 20 ans dans les écoles.
Je pense que c'est sociologiquement, effectivement, il y a des cercles concentriques qui s'élargissent. Au début, ça s'adressait vraiment à un petit cœur nucléaire de convaincus. Et puis, petit à petit, les cousins, les amis voient en fait quoi. Ils voient quoi? Ils voient un apprentissage de fondamentaux hyper carré. Ils voient des enfants qui, du coup, sont solides d'un point de vue structurel. Et puis, ils voient aussi certaines notions laissées à la porte de l'école. Et ça, c'est important. Je pense notamment à tout ce qui est relatif à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Le hors contrat, aujourd'hui, est le seul à échapper à cette règle, puisque vous soyez dans le public ou dans le privé sous contrat, vous êtes tenu de faire 3 séances par an, de la maternelle à la terminale, avec des notions qui, à partir du CP, commencent, pour certaines d'entre elles, à devenir franchement discutables, à tout le moins. Donc, évidemment que les parents se posent la question et que vous acquérez des nouveaux publics, ce dont je me réjouis. Après, je terminerai sur cette question en disant quand même que nous n'avons pas vocation, nous, à remplacer. Nous ne sommes pas une éducation nationale bis pour le privé, voilà, que ce soit très clair. Nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique, donc nous, on est en aide, nous sommes des acteurs auxiliaires. Mais par contre, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que l'initiative privée soit un aiguillon, soit une initiative complémentaire. Il y aura toujours du public, du privé sous contrat, du privé hors contrat, quels que soient les noms qu'on donne, les statuts qui changeront, je ne sais pas, il y aura toujours ça. Mais au lieu de le combattre comme si c'était une remise en cause, il faut tout simplement l'organiser de manière sereine pour qu'on puisse apporter les choses mutuellement. Je vous le dis d'autant plus tranquillement que pour ma part, j'ai fait mon parcours dans le public, dans le privé sous contrat et dans le privé hors contrat.
Voilà, vous connaissez un petit peu tout. Il y a une chose, un point qui est tout à fait particulier dans les écoles indépendantes, c'est l'organisation de l'école, l'organisation, d'où vient la direction, comment se montent ces écoles, c'est tout à fait particulier.
Oui, ça c'est plutôt Augustin qui...
Après c'est souvent lié aux parents, c'est vrai
oui,
que c'est
alors,
souvent
c'est
les familles
que ça...
qui s'impliquent dans la création.
Des parents créés, parce que justement c'est souvent quand même les écoles primaires qui sont créées, et si je ne me trompe pas, c'est un nombre d'écoles primaires assez impressionnant.
Oui, exactement.
Parce que évidemment, le CP est très essentiel, et c'est à partir de là qu'on voit quand même l'évolution des enfants et la bonne pédagogie.
Et puis après, c'est vrai que les familles s'impliquent aussi d'abord pour leurs enfants, charité bien ordonnée commençant par soi-même, et donc elles vont monter progressivement, elles vont passer du primaire au collège.
Et ouvrent un collège,
voilà.
Ouais.
Et les lycées commencent à arriver, mais c'est
peu,
encore assez faible.
Ouais. Ouais. Parce que c'est difficile de le monter.
Voilà, pour les raisons que vous mentionniez, Marie-Denège, notamment sur Parcoursup, sur le Pass Culture, sur
oui, ça prend un temps énorme pour les parents.
Et puis avec des matières qui nécessitent peut-être plus d'expertise qu'au collège, où finalement un enseignant peut très bien... On peut envisager qu'il assure les cours de français, d'histoire, de géographie, de latin. Ça devient plus compliqué au lycée d'avoir les compétences sur de multiples matières.
Tout à fait. Ouais. Il y a quand même de vraies têtes de pont avec des lycées très prometteurs et même qui sont déjà très structurés. Je pense à la Puy-du-Fou Academy, à Saint-Dominique Opec, à beaucoup d'autres qui montrent la voie. Maintenant, c'est vrai que pour avoir un parcours HLP, enfin, je ne sais plus les lettres parce que moi, je suis de l'ancienne école avant Parcoursup, mais c'est très compliqué à monter. Ouais.
Dans les sujets qui comptent pour ces écoles, il y a un point qui, je crois, est important pour les parents, c'est tout ce qui est communication entre l'école et la maison. Vous, Marie-Denège Guillotel, en tant que parent, comment est-ce que vous percevez ce sujet, l'importance du sujet ?
Alors, je pense que c'est essentiel pour les parents qui décident de mettre leurs enfants dans leur contrat, d'avoir un service, entre guillemets, de relations de confiance entre la direction, les professeurs et eux. Il y a même un triangle, en fait, parents, professeurs et enfants. Et c'est ce qui permet, en fait, de faire progresser l'enfant. Et alors que je pense que dans le public ou sous contrat, vous n'avez pas cette chance, en fait, de travailler main dans la main avec les directions et les parents et les professeurs.
Oui.
Ça, c'est...
Généralement, dans le public, à part les réunions parents-professeurs une ou deux fois par an, les directions n'aiment pas trop qu'on vienne se mêler de ce qui se passe dans les classes, et je pense que c'est assez différent.
Oui.
Dans les
et là, c'est pour ça que les parents aiment cette proximité et surtout voient que c'est essentiel pour faire progresser leur enfant.
Et la contrepartie, c'est généralement un très gros investissement des parents qui donnent un coup de main pour assurer un certain nombre de cours ou pour faire les travaux ou pour...
Oui, en fait, c'est sans cesse. Il y a un sujet aussi qui est très important pour nous, les parents d'élèves, c'est d'aider tous les parents qui ont des enfants porteurs de handicap. Alors là, vous voyez un investissement des parents incroyable. Moi, je continue à discuter avec pas mal de parents qui discutent entre eux, entre parents d'élèves de différentes écoles en France, et qui montent ensemble des structures pour pouvoir trouver des financements. Puisque donc, dès lors qu'un enfant porteur de handicap passe d'une école publique sous contrat dans leur contrat, les aides financières lui sont supprimées. Donc apparemment, pour l'État, c'est ce que comprennent les parents, ils sont un peu révoltés, un enfant perd son handicap dès lors qu'il arrive dans leur contrat, alors qu'il est dans le public sous contrat. C'est un petit peu gênant.
Oui, c'est dit avec humour, mais je pense que ça correspond à une réalité un peu douloureuse pour les parents, parce que normalement, les enfants ont droit à des aides, à des personnes qui les soutiennent, qui les accompagnent lorsqu'ils ne sont pas capables de suivre une scolarité de manière complètement autonome. Et déjà, dans le public, c'est compliqué d'avoir cette aide.
Et mais vous n'avez pas forcément les personnes adéquates. D'ailleurs, c'est des parents qui, moi, m'écrivent en me disant « Voilà, je découvre que je ne peux plus avoir d'aide. J'ai passé mon enfant dans une école, alors ou Montessori, ou une autre école, avec beaucoup de pédagogies diverses. Et là, je découvre qu'en fait, je n'ai plus droit aux subventions. » Donc, en fait, les parents arrivent dans leur contrat par défaut, parce qu'en fait, le public ne peut pas les aider.
Ouais, voilà. Mais écoutez, on va faire une petite pause. Et comme nous voulons le meilleur pour les enfants, il est une personne qui cherche toujours le meilleur dans la littérature jeunesse, et Valérie Daubigny, que j'accueille avec plaisir. Bonjour Valérie.
Bonjour Sophie.
Alors, quelle pépite avez-vous dénichée pour nos jeunes lecteurs aujourd'hui ?
C'est une bande dessinée, c'est un vrai coup de cœur, vraiment. Je la lis, je la regarde, je la relis, je la re-regarde. Et je suis admirative du dessin, des couleurs. Il s'agit du deuxième tome des aventures de Jacques, Vic et Otto, En route vers la liberté.
Alors je pense qu'on en avait parlé, on avait dû parler du premier tome il y a quelques temps.
En décembre, il est sorti en décembre le premier tome. Et là arrive le deuxième tome, donc nos auditeurs se souviennent peut-être que ce sont les pages bande dessinée du magazine Panache, Le Panache, des éditions du Puy du Fou. Et les petits lecteurs sont ravis de retrouver en un très bel album, très bien édité, c'est un beau papier, vraiment un beau travail d'édition, ils sont ravis de les retrouver, et puis ceux qui ne sont pas encore abonnés au Panache peuvent découvrir. Et là on retrouve nos héros, c'est un trio, Vic, une jeune fille, mais encore à peine sortie de l'enfance, Jacques, qui lui est encore un enfant, mais devenu débrouillard par la force des choses. On est au moment de la libération en France. C'est encore un climat de violence, de pénurie, avec des personnes qui essayent de profiter de tout ça. Donc, dans cette nouvelle aventure, et on va rencontrer un garçon qui vole des médicaments à la Croix-Rouge pour les revendre aux Noirs. Les enfants vont mettre ce trafic au jour. Ils essayent de rejoindre d'abord Paris parce que ils ont un message pour Rose Valland. C'est là où, vraiment dans cette histoire, il y a une toile historique qui est passionnante. Rose Valland, c'est une conservatrice du musée du Jeu de Paume qui a permis pendant la Seconde Guerre mondiale la mise à l'abri, et en tout cas qui a consigné toutes les œuvres qui avaient été prises par les Allemands. Et grâce à son travail, on a pu les récupérer. Et ils ont un message pour elle. On va donc la rencontrer. On va croiser aussi les Rochambelles, ces jeunes femmes très courageuses qui conduisaient les ambulances en suivant la deuxième bébé. Voilà, donc des éléments historiques, des éléments psychologiques aussi, parce que Vic, qui est cette jeune fille très volontaire, à force, le petit Jacques, qui lui ne manque pas de courage non plus, on le voit d'ailleurs dans une des vignettes, il s'est armé d'un pistolet, pour se faire ouvrir par justement un de ces très mauvais garçons. Vic elle veut mener l'affaire, elle fait sa commandante. Et Jacques en a un petit peu assez. Voilà, ça frictionne un peu. Alors comment on fait lorsqu'on est dans le même bateau, finalement, ils sont embarqués ensemble, ils traversent des dangers, ils ont un objectif. Vous voyez, je trouve que c'est fin. Le scénario de Guénaël Barusso est très, très fin. Et puis, voilà, beaucoup d'action. Les illustrations sont c'est très ligne claire, tout ça, avec beaucoup de détails à observer. Donc, c'est aussi de l'apprendre à voir, d'une certaine façon. Ça nous intéresse, nous. Les dessins sont de Louis Saillé et le coloriste Clément Amtat. Je suis vraiment épatée. Il y a certaines vignettes, vous avez envie de les avoir en tableau. Il y a le pont Alexandre III de nuit, l'architecture, on est à Versailles, à Paris, aux Invalides. L'architecture est très, très bien représentée. Les visages, Dieu sait que c'est difficile, les visages, hein, les visages d'enfants.
On le sait, oui.
Des visages de méchants, ben voilà, tout est parfait. C'est un travail, on sent une minutie du temps. Et bah du coup, le résultat, c'est que les enfants sont captivés, ils les lisent, ils les relisent, ces bandes dessinées du Puy du Fou, les aventures de Jacques, Vic et Otto. C'est vraiment une très, très grande réussite. Hein. Je suis vraiment admirative.
Je sens votre enthousiasme.
En général, je suis enthousiaste parce que c'est vrai que pour vous, Sophie, je cherche le meilleur du meilleur. Alors, bien sûr, je suis toujours enthousiaste.
Pour quel âge pensez-vous que cette bande dessinée soit prévue ?
Eh bien, à partir de 8-9 ans. 9 ans, c'est bien, parce qu'il faut quand même comprendre un petit peu ce contexte historique de la libération. On n'entre pas dans des choses très compliquées, mais bon, il faut savoir ce que la France a traversé à ce moment-là. Et puis après, sans limite. Mais 9 ans, c'est très bien. J'ai des retours de lecteurs de cet âge qui sont très passionnés et qui ont envie de l'offrir autour d'eux. C'est ça qui est magnifique. Parce que je ne vous ai pas donné le prix. Le prix, c'est 13 euros. 13 euros.
13 euros pour un... Ah, c'est impressionnant, hein.
Ouais. 56 pages, on voit le travail du dessinateur, mais je ne sais pas combien il y a d'heures de travail là-dessus. Eh bien, chapeau. Chapeau les éditions Puy du Fou, c'est un vrai beau cadeau. Alors, c'est pas mal d'avoir lu le premier tome pour attaquer ce deuxième tome, mais voilà, on peut toujours se raccrocher. Si on l'a entre les mains, on comprend vite. Hein. Donc, celui-ci, mais deuxième tome.
Tant qu'à faire, autant avoir les deux.
Bah exactement. Les aventures de Jacques, Vic et Otto, Paris est une quête pour ce deuxième tome. Édition Puy du Fou, on attend vraiment la suite. Guénaël Barusso pour le scénario, Louis Taillé pour les dessins, Clément Abtat pour les couleurs. Elle vient de paraître tout début avril et on l'attend avec grande, grande impatience. On attend la suite avec grande impatience.
Merci beaucoup Valérie, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle pépite.
Merci, au revoir.
Au revoir. Au revoir Valérie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous retrouvez l'émission Culture et Éducation avec Sophie Rouberti. Je reçois aujourd'hui Marie Desneiges Guillotel, qui est présidente de la Fédération des parents d'élèves des écoles indépendantes, et Augustin Yvan, qui est responsable du développement de la Fondation pour l'école. Et vous vous en doutez, nous parlons école, et en particulier école indépendante. Juste avant l'intervention de Valérie Daubigny, nous parlions de la question du financement, ce qui est un vrai sujet, c'est-à-dire que les parents payent deux fois lorsqu'ils ont des enfants dans le hors contrat. Est-ce que c'est une vraiment quelque chose qui engage de manière importante les finances des familles, ou est-ce que finalement on arrive à faire en sorte que ces écoles hors contrat ou indépendantes restent à des niveaux raisonnables?
C'est compliqué. Les parents font de leur mieux. Il y a beaucoup, beaucoup de sacrifices faits pour que les parents puissent mettre leurs enfants dans ces écoles. Les écoles font au mieux aussi. En fait, les deux acteurs travaillent au mieux pour trouver des financements. Alors, des familles se font aider. Il y en a qui font un appel à leurs grands-parents, leurs grands-oncles, voilà. Il peut y avoir aussi d'autres moyens aussi de se faire aider. Et pour les écoles, c'est exactement la même chose. En fait, ils courent après des subventions ou des donateurs pour pouvoir arriver au bout du mois, pour pouvoir payer leurs professeurs décemment.
Oui, Augustin, Yvan, c'est vraiment un vrai problème pour les écoles de réussir effectivement à boucler un budget.
Alors, c'est un défi annuel. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de services se développent autour de cela. Je pense par exemple à une association qui s'appelle École Plus, qui est un service en partenariat avec la Fondation pour l'école et qui justement aide les écoles à développer leur levée de fonds, surtout à développer leurs dons. Parce que ça s'organise et dans un marché ultra concurrentiel, c'est bon de savoir comment s'y prendre, comment fidéliser ses mécènes, comment aller les chercher et comment faire pour que toutes les belles choses pédagogiques que l'on fait dans une école au quotidien soient valorisées. Souvent, les acteurs de terrain sont des éducateurs et non des spécialistes en communication. Donc il y a des services qui se développent, j'en ai cité un, et puis il y a tout le travail que fait l'école auprès des familles, auprès des acteurs locaux comme les entreprises, auprès des élus, auprès même des donateurs nationaux. Je pense à certaines écoles comme Jacinthe et François qui ont à Rambouillet en l'occurrence, qui ont fait partie de levée de fonds nationale organisé. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se développent. Et puis nous, à la Fondation, qu'est-ce qu'on fait? On lutte pour que ce soit un bon scolaire, un ticket scolaire, un chèque éducation, on peut toujours rêver, ou un crédit d'impôt.
Alors qu'est-ce que ça serait le chèque éducation? C'est quelque chose qu'on entend un peu comme un mantra. Mais concrètement, qu'est-ce que ça permettrait? Qu'est-ce que ça engagerait?
Bah, le principe philosophique est simple. Déjà, il faut savoir que c'est appliqué dans certains États des États-Unis et dans certains pays d'Europe. J'ai la Suède de mémoire, mais je ne dois pas dire de bêtises, ou la Norvège. Mais toujours est-il que le principe philosophique, il est simple, il est le suivant. Une fois que l'État a défini son rôle comme étant le régalien, il délègue aux parents, ou enfin plutôt il reconnaît aux parents, parce qu'il ne délègue rien du tout, ça appartient d'abord aux parents, le droit de choisir l'éducation pour leur enfant, et à ce titre, du coup, il leur alloue un chèque éducation, c'est-à-dire que ce sont eux qui disent « j'inscris mon enfant dans telle école », et donc l'école sera rémunérée par l'État en fonction du nombre d'élèves, entre guillemets, du succès qu'elle rencontre. C'est pour ça que nous proposons, notamment dans ce sondage qu'on a posé la question aux Français, sur une agence d'évaluation. Parce qu'aujourd'hui, l'État est à la fois le prescripteur et l'arbitre. C'est lui qui dit telle école est bien, telle école est moins bien, sachant que lui-même a son propre service d'école, si vous me permettez la comparaison. Donc, sans lui faire offense, on peut estimer que c'est difficile d'être neutre. Donc, il y a un vrai enjeu de dire, ok, est-ce qu'on peut laisser aux parents, rendre aux parents en fait cette prérogative qui est choisir l'éducation et l'instruction de leur enfant et les y aider. Parce que comme le disait tout à l'heure Marie-Déneige Guillotel, aujourd'hui, un parent se retrouve avec deux scolarités à payer pour un enfant, c'est énorme. Heureusement que les parents s'impliquent, un parent du hors contrat j'entends, heureusement que les parents s'impliquent pour le ménage, la cantine, le quotidien en fait dans les écoles hors contrat. Sinon,
les transports.
Les transports.
Parce que les écoles hors contrat reviennent beaucoup moins cher, enfin par élève, ça coûte beaucoup moins cher qu'un élève du public.
Ah bah, à l'État, ça c'est sûr, on avait fait le calcul que, en gros, hein, en prenant les grandes masses, un élève du public coûte à l'État 12 000 euros par an. Un élève du privé sous contrat coûte 9 000 euros par an. Et un élève du hors contrat, par définition, à l'État, eh bah, il coûte zéro. Puisque tout est... Et même, au-delà de ça, le coût des scolarités est beaucoup moindre dans le hors contrat, parce qu'on est habitué à faire beaucoup avec peu. Mais pour vous dire, il y a même d'un point de vue économique, on parle beaucoup de restrictions budgétaires ces derniers temps et de plans de coupe. Bon bah, favoriser les écoles hors contrat, et même ne serait-ce que par un crédit d'impôt, mais vous avez un levier là d'économie qui est majeur. Et c'est d'ailleurs pour ça que leur contrat continue d'exister malgré les tracasseries dont il peut faire l'objet.
Ces tracasseries, elles sont vraiment importantes. Vous le voyez en tant que parent, ou c'est vraiment au niveau de l'école que se passent ces tracasseries administratives?
Les tracasseries sont et pour les parents et pour les écoles en fait. Comme on travaille main dans la main avec eux, en tout cas en tant que parent, et puis c'est ce que nous disions, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui sont investis comme professeurs, comme directeurs d'école, ils sont sur tous les fronts. Donc oui, c'est...
Elles sont de quel ordre ces tracasseries administratives?
Et justement, c'est pour ça que la fondation, Augustin Yvon nous parlait d'École Plus, en fait, nous avons besoin en fait, d'aide en tant que parents et directeurs. Je ne suis pas dans la direction, mais je le vois en tant que parent, d'être des soutenus pour toute l'administration quant à la gestion des brevets, du bac, la gestion du montage tout simple en fait, d'une école que vous voulez mettre sur pied. Il faut des professionnels pour tout. Et quand vous démarrez une école hors contrat, vous êtes juste parent d'élève, vous pouvez avoir bien sûr des qualités comme directeur futur ou comme professeur, mais vous n'avez pas toutes les
diplômes,
toutes les casquettes,
voilà. L'expérience voilà. Nécessaire.
Oui.
Et je rebondis sur les tracasseries, je pense qu'il y a des tracasseries qui ne sont même pas volontaires. C'est le génie français de la suradministration. Vous avez, je l'ai vécu en tant que directeur d'école, 14 formulaires à remplir chaque début d'année, à la mairie de résidence de l'enfant, à la mairie où vous êtes, à la préfecture, au rectorat, enfin je vous ai parlé des détails. Vous avez aussi derrière un ensemble de conditions draconiennes pour pouvoir ouvrir, enseigner. Donc on dit très abusivement, c'est un détracteur de la liberté scolaire qui dit ça bien sûr, que c'est plus facile d'ouvrir une école qu'un kebab. Ça a été l'argument qui courait. C'est évidemment complètement faux. C'est extrêmement difficile. Donc, les parents font face à tout ça. Et par ailleurs, pendant les inspections, là, en tant que parents, il est arrivé qu'ils voient leurs enfants revenir.
On est traumatisés.
Voilà, traumatisés. Ouais. Puis
par
surtout,
certaines attitudes déplorables des inspecteurs. Donc, nous, on avait eu des remontées. En 2023, on a fait remonter ces problèmes-là suite à des inspections. Enfin, vous aviez 9 inspecteurs qui sont passés par une porte dérobée dans une école, alors que quel est le problème de se signaler, de dire voilà, on vient inspecter votre école. En tant que parents, nous, on est complètement d'accord pour que les inspections se fassent.
C'est plutôt une bonne chose.
Oui.
Parce qu'en fait, être contrôlé ne veut pas dire être nécessairement sanctionné. Ça peut être l'occasion de constater que tout va bien, ou alors de donner des marges de, enfin il y a tout de forcément des marges de progrès dans n'importe quelle structure et se voir suggérer des améliorations ne peut être que positif.
Que bénéfique pour les parents d'abord qui voient ensuite que l'école fait très attention justement à progresser, à ne pas rester sur ses acquis. Mais malheureusement, vous avez quand même des inspecteurs qui outrepassent leurs droits. Et ça, en tant que parents, nous, on ne supporte pas parce que vous avez vraiment des enfants qui ne comprennent pas pourquoi on leur parle de la sorte, on leur pose des questions qui sont du domaine du personnel, du familial. Donc là, c'est pour ça que nous, on est en mesure de monter au créneau à ce moment-là, parce que ce n'est pas purement lié à l'école.
On en a entendu parler il y a quelque temps. Est-ce que c'est encore vrai? Est-ce qu'il n'y a pas quand même eu une certaine prise de conscience que ce n'était pas admissible?
Alors, il y a une prise de conscience pour certains
dans certaines,
certaines académies, et puis d'autres, tout d'un coup, ressurgissent ailleurs.
Surtout que l'effet Bétarame a eu un effet très important sur le privé. C'est que ça a multiplié les contrôles, à la fois dans le privé sous contrat, qui n'y étaient pas habitués, les pauvres, ça leur a fait bizarre.
Oui, ils ont découvert ce que nous vivions.
Exactement. Mais ça aussi, je reprends l'exemple que vous citiez, il y a quelques mois, il y a une école qui a reçu ainsi 17 inspecteurs, inspection surprise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 17 inspecteurs.
Oui, pour combien d'élèves?
Pour combien d'élèves? Je sais, j'ai plus en tête, mais enfin, à un moment donné, c'est démentiel, les écoles hors contrat, c'est rarement à 2000 élèves. Donc, il y a manifestement un deux poids, deux mesures, et par ailleurs, il y a un flou très net sur ce que peut faire l'inspecteur. Parce que entre les préconisations, les conseils, ils sont toujours beaux à prendre, les mises en demeure, certains utilisent ce flou pour vous dire, attention, si dans tant de mois, vous n'avez pas fait ça, ou dans tant de semaines, ou dans tant de jours, c'est tant de milliers d'euros d'amende, tant d'années de prison, et ceci et cela.
Ou fermeture de l'école.
De l'école.
Et donc c'est l'angoisse.
Le parent qui reçoit ça, le directeur qui reçoit ça, c'est un brave parent d'élève qui a fait de son mieux. Alors parfois il y a des choses à dire, je ne dis pas évidemment, mais je veux dire, où en est-on des délinquants graves et des meurtriers et des trafiquants de drogue en France pour pouvoir appliquer ce régime-là à des gens de la société civile qui en fait juste essaient de faire les choses bien, quoi. Il y a un deux poids, deux mesures qui est manifeste.
Est-ce que ces inspections existent aussi dans le public?
Alors, pas sous cette forme. C'est plutôt les professeurs du public qui sont inspectés pendant leur formation.
Oui, ça, c'est ce qu'on appelle les inspections qui faisaient peur à tout le monde.
Voilà, tous les nouveaux professeurs.
Voilà, c'est ça.
Mais en revanche, elles n'ont pas d'inspection de l'éducation nationale au sein de leur... Donc, ça veut dire que vous avez, en fait, les plus conformes, entre guillemets, aux attentes d'inspection nationale, paradoxalement, c'est le hors contrat, parce qu'ils sont les seuls. Et puis alors, je vous prie de croire que c'est sur la sécurité, sur le budget, sur la pédagogie, sur... Alors, évidemment, ils n'ont pas de droit de législation sur tout ça. Et normalement, ils sont censés se concentrer sur la sécurité et les locaux et vérifier que le socle commun des compétences est appliqué. Mais eux, ils prennent un champ, alors c'est à 360 degrés, quoi.
Alors, est-ce que la Fondation pour l'école essaye d'intervenir dans ce... Dans ce flou, parce qu'en fait on est un peu dans un flou, dans un flou par rapport à la réglementation. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Est-ce que vous essayez de vous mettre d'accord avec les académies, avec le ministère de l'Éducation nationale pour clarifier un petit peu les droits et devoirs des uns et des autres?
Alors on essaye, bien sûr, régulièrement on écrit, et je laisserai peut-être Marie-Thérèse en parler, parce qu'en 2023, il y a eu une action intéressante auprès de la DGESCO, moi j'étais pas encore là à l'époque, en partenariat entre la Fondation et la Fédération, donc une action auprès de la DGESCO pour remonter les difficultés et pouvoir avancer, collaborer.
Oui, non, ils nous connaissent.
Ça, je ne m'en doute pas.
Oui, mais en tant que fédération, c'était important. Nous y sommes allés évidemment avec la fondation, avec qui nous sommes partenaires. Donc, nous, on leur a fait remonter et voir forcément les problèmes que les parents subissent, surtout au niveau des AESH, parce que c'est vraiment le sujet premier et qui concerne tous les parents d'élèves, même s'ils n'ont pas des enfants porteurs de handicap. Mais comme on est quand même une forme de grande famille, où c'est une entraide, en fait, entre les écoles, entre les parents, on leur a signifié que c'était un problème récurrent. On a eu ces interventions-là. Sur un point de vue des inspections dont nous parlions tout à l'heure, on a pu faire remonter ces problèmes avec... on a eu un article dans le Figaro, et d'autres médias pour bien montrer justement les problèmes aux, auxquels on faisait face. Donc, non, il y a.
24 000 par an, Alors, rien à la fédération.
À la fédération, oui. Donc, nous sommes 24 000 parents adhérents, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a 135 000 élèves. Donc, il nous faut encore des parents et je leur demande instamment de nous soutenir pour
Alors,
qu'on les soutienne.
Petit appel oui. aux parents d'élèves d'écoles indépendantes, ouais. Sachant que l'adhésion est gratuite.
Oui, alors première chose, ensuite ça prend 3 clics. On a essayé de faire au plus vite, parce qu'on est dans un monde de vitesse. Et il y a aussi quelque chose de nouveau cette année, c'est qu'on a créé un sondage pour les parents concernant toutes les injustices qui sont faites aux parents du hors contrat. Et donc on souhaite demander aux parents, par académie, de nous dire quelles sont les injustices auxquelles ils font face.
Vous parlez beaucoup de côté négatif. Est-ce que dans le rôle de votre fédération, est-ce que le rôle de votre fédération, c'est essentiellement de lutter contre ces injustices, contre cette, en fait, pour favoriser l'équité scolaire, ou est-ce que vous avez d'autres démarches qui soient plus dans un quelque chose de positif, ou vis-à-vis des parents, ou vis-à-vis de l'administration?
Alors nous, c'est vraiment le lien entre les parents des écoles indépendantes et les pouvoirs publics. Donc en fait, c'est ce qui ne marche pas, même si nous parlons tout à l'heure des inspections, où on ne manque pas de dire quand les inspections se sont bien passées, parce qu'on est vraiment complètement en accord pour dire qu'il doit y avoir un lien, bien sûr, entre les pouvoirs publics, l'éducation nationale et nous, enfin les écoles dont les parents se trouvent à l'intérieur. Et donc, c'est vrai que c'est plus pour faire remonter les choses négatives, si je puis dire, que positives.
Après, si je puis me permettre, je sais que vous avez aussi un principe de porte-parole par académie.
Oui, tout à fait.
Lors de la représentativité.
Voilà. Mmh. Et alors ça, c'est vrai que cette année, nous sommes un jeune bureau de parents qui sont bien investis, bénévoles. Et cette année, on a créé un réseau de porte-parole. D'ailleurs, on recherche des porte-parole par académie, qui puisse permettre à la Fédération des parents de transmettre nos informations sur les actions que nous menons pour eux, et aussi de faire remonter les différents soucis ou les questionnements des parents via ces porte-paroles auprès de la Fédération. Donc là, c'est tout un long travail, parce que nous courons après des bénévoles. Nous avons aussi le principe d'ambassadeur, c'est-à-dire un parent d'élève qui est juste là pour transférer les messages du porte-parole. Donc là, c'est une petite mission, si je puis dire, où maintenant, évidemment, avec les réseaux sociaux, WhatsApp et les réseaux de parents, il suffit d'un petit SMS et les parents sont vite au courant qu'ils doivent cliquer 3 fois pour adhérer à notre fédération, bien découvrir notre site aussi, et puis nous apporter diverses informations auxquelles que nous ne connaissons pas encore. Voilà.
Augustin Yvan, les relations avec de l'administration avec la Fondation pour l'école évoluent-elles dans le bon sens, ou finalement vous êtes catégorisé comme les empêcheurs de tourner en rond?
J'ai envie de dire que c'est un doux mélange des deux. Plus les écoles libres se développent et plus nous sommes quand même écoutés. Craint, c'est un peu fort, parce qu'en réalité nous sommes une goutte d'eau dans un ensemble. Il y a 12 000 établissements en France, donc les 2105 établissements du hors contrat, c'est pas grand chose. Néanmoins, de plus en plus on sent que les thèmes que nous portons viennent dans l'espace public et dans le débat public. J'ai pris l'exemple de l'uniforme, mais je pourrais aussi prendre l'exemple du téléphone, du smartphone en l'occurrence. On se rappelle de toujours lui, Gabriel Attal, qui avait fait une expérimentation pour l'interdire, pour le laisser à la porte du collège. Ça, c'est quelque chose que portent les écoles hors contrat la plupart du temps. On pense aussi à la recherche de l'autorité. Il y a une question là-dedans, d'ailleurs, dans le sondage que nous avons commandité à l'IFOP. Comment renforcer l'autorité? En fait, il y a un constat commun partagé par les Français. Il se trouve que en précurseur, et je le dis sans... moi, je ne suis pas pour grand-chose, je n'étais pas né à l'époque, mais en précurseur, les fondateurs du hors contrat ont senti ces thématiques et y ont répondu. Donc aujourd'hui, la Fondation pour l'école et les écoles hors contrat qu'elles représentent ont quelque chose à dire. Et ça, les pouvoirs publics y sont attentifs, premier point. Deuxième point, par la base, je vous dis ça, moi quand j'étais professeur dans le hors contrat, j'étais instituteur pour être exact, j'avais des très bons contacts avec certains de mes collègues du public, on s'échangeait beaucoup d'éléments, j'ai gardé contact avec certains d'entre eux parce qu'on se repassait les élèves, donc en fait on n'a pas une approche idéologique, on a une approche empirique et pragmatique. Et fort de ça, en fait, ce qui compte, et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est le bien-être des enfants. Nous, si demain il n'y a plus de problème à l'éducation nationale, on peut fermer boutique, enfin, je veux dire, On n'est pas là pour exister pour exister. Il se trouve qu'on cherche un but qui est le bien-être des enfants, donc on se bat pour ça. Je pense notamment, j'ai parlé du smartphone, mais je pourrais aussi parler de l'intelligence artificielle. Pareil, aujourd'hui, c'est la grande question du moment.
Fait-on avec l'IA
à l'école?
Est-ce qu'on l'utilise? Comment on l'utilise? Comment on apprend aux enfants à s'en servir? Finalement, c'est la même démarche et la même problématique que quand on a commencé à parler d'Internet. Est-ce que les enfants peuvent utiliser Internet ou pas pour travailler?
Mais exactement, et alors, c'est toujours pareil.
C'est un vrai sujet.
Oui. C'est un vrai sujet, on n'aura malheureusement pas le temps ici, mais j'espère que vous nous réinviterez.
Avec plaisir.
En tout cas, ce sera toujours avec plaisir. Mais il y a quelque chose qui est vrai, c'est que sur le téléphone comme sur l'IA, il y a d'abord un principe qui est de connaître le réel, y être connecté, connaître les fondamentaux et avoir un esprit critique. Beaucoup d'écoles hors contrat ont fait de l'acquisition d'une bonne perception du réel le socle. Dans un monde où tout va à 3000 à l'heure, où on est constamment connecté à nos téléphones et où du coup on perd pied. Comment voulez-vous qu'un enfant de 12 ans ne perde pas pied si nous-mêmes adultes, on switch, on swipe, on scroll, on ce que
oui,
vous
alors
voulez.
Alors ici, on essaye de parler français.
Ah là, hein, autant pour moi, 3 euros dans le cochon. toujours est-il que j'ai fait exprès d'employer ces termes pour montrer le caractère complètement absorbant et fascinant de ces technologies. Il y a un moment donné où les enfants ne peuvent pas s'y retrouver. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on développera lors de ce colloque sur que préconise la Fondation par rapport à ces thématiques-là, notamment commencer par un apprentissage solide, ensuite progressivement apprendre à l'enfant à abstraire et donc à développer sa capacité d'abstraction et donc à utiliser des outils, mais en ayant eu d'abord une réflexion sur l'outil en lui-même. Il y a des super outils qui existent, je pense à Colori, je l'ai utilisé dans mes classes, c'était génial, c'était un outil d'apprentissage au principe des écrans, mais sans écran. Il y avait un petit robot qui s'appelait Cubetto qui était en bois type Montessori. C'était super. Et là, on apprenait le langage binaire, les principes de l'arborescence numérique, enfin plein de choses. Et petit à petit, on y allait par étapes. Et finalement, au lycée, une fois que c'est bon, on est costaud, on peut commencer à. Et là, parce que vous mettez ChatGPT dans les mains d'un adolescent, évidemment qu'il va perdre le sens de l'effort, qu'il ne va pas aller vérifier
de
les sources.
De la réflexion. Évidemment. Il n'y a plus rien. Parce que...
Et il va se rendre compte, il ne va pas se rendre compte que le résultat sera faux.
Oui, ou alors
souvent,
il le voit juste parce que c'est la facilité en fait. Mmh. Et puis comme on est dans un monde où tout doit aller de plus en plus vite, la recherche est, ils sont un peu oppressés et ils disent il faut que j'aille au plus vite. Donc est-ce que je peux utiliser l'IA? Ça voilà. On parlait tout à l'heure des liens entre l'école, les professeurs et les parents. Si les enfants savent que les professeurs et les parents marchent main dans la main justement pour la bonne gestion de l'IA, c'est quelque chose.
Ça peut aider. Tout à fait. Alors, si on devait terminer en une phrase, que veulent vraiment les parents pour l'école? Que diriez-vous, Marie-Déneige Guillotel?
Moi, je pense qu'ils veulent le meilleur pour leur enfant, que l'enfant soit vraiment construit dans son intégralité et qu'il puisse s'épanouir pour ensuite les études supérieures. Et d'ailleurs, il y a un petit lien avec les études supérieures ou les grandes écoles qui connaissent bien les lycées de nos lycées. Acceptent volontiers nos enfants parce qu'ils savent qu'ils ont été bien formés. Ouais.
Ça, c'est une bonne nouvelle. On va maintenant passer à vos coups de cœur. Marie-Déneige Guillotel, quel coup de cœur avez-vous choisi de présenter à nos auditeurs?
Alors moi, j'ai un coup de cœur depuis mon retour en région parisienne. C'est le pass pour aller visiter le château de Versailles qui nous permet également d'avoir les expositions temporaires régulièrement. Vous en avez une tous les 2-3 mois et on se régale. Tous les 2-3 mois, on passe du Bernin, de la sculpture de Louis XIV du Bernin aux Amérindiens. Et à partir du mois de mai, vous avez une exposition sur le Jardin des Lumières à Trianon et non pas au château de Versailles. Où vous avez une découverte en fait inédite des jardins du XVIIIe siècle sous diverses formes, costumes, dessins, scénographies diverses. Et donc j'ai hâte d'aller voir cette exposition. Moi, c'est mon coup de cœur de l'année, c'est de pouvoir profiter de toutes les expos temporaires du château de Versailles.
Et bien c'est effectivement une très très bonne idée parce que l'endroit est exceptionnel. Augustin,
Même question.
Oui, même question. Alors, un coup de cœur à proposer à nos auditeurs?
Oui, un coup de cœur pour rester dans la thématique qui va parler de la difficulté d'enseigner en 2025, puisque c'était un film de l'année dernière, qui s'appelle Pas de vagues. peut-être même 2024, je ne sais plus, qui est dans le rôle principal. François Civil incarne un professeur d'histoire de mémoire, ou de français, je ne sais plus, en banlieue parisienne. Et il lui arrive tout un tas d'histoires parce que l'un des parents d'élèves, ou plutôt l'un des grands frères en l'occurrence, l'accuse d'avoir cherché à, entre guillemets, séduire l'une de ses élèves, ou en tout cas, il y a un embrouillamini comme ça qui monte en mayonnaise, et le titre du film, Pas de vague, renvoie à la réponse de l'institution face à ce professeur qui est complètement démuni par la tempête qui se crée, qui n'a aucun soutien, et qui rencontre vraiment de grandes difficultés. D'ailleurs, il se trouve que le réalisateur du film est lui-même l'ancien professeur dont il est question dans le film. Faut s'accrocher, il y a des moments qui sont plus ou moins agréables et sympathiques, mais ça décrit bien la réalité d'une classe en banlieue parisienne pour l'avoir vécu, et ça remet les pendules à l'heure sur l'urgence de la réaction.
Merci beaucoup. Merci Marie-Deneige Guillotel, présidente de la Fédération des parents d'élèves des écoles indépendantes. Merci Augustin Yvan. Pour votre présentation, vous représentez la Fondation pour l'école. Merci de cette émission passionnante. Je rappelle le colloque organisé par la Fondation pour l'école au Palais du Luxembourg le 4 mai prochain de 16h à 18h. Inscription sur le site de la Fondation.
Exactement, vous tapez colloque et Fondation pour l'école dans Google et c'est tout bon.
Merci beaucoup. À bientôt, merci, chers éditeurs. Journée.
Vous venez d'entendre Culture et éducation dirigée par Sophie Ruberti. Émission préenregistrée le 13 avril 2026, diffusée jeudi 23 avril de 10h à 11h et réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.